Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique, bienvenue sur Point d'Orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée, et aujourd'hui nous allons voir une pièce, et une seule, une magnifique cantate du grand maître de la musique baroque, Dietrich Buxtehude, que je voulais partager avec vous parce que de temps en temps, il est bon de s'attarder sur une œuvre et de vous en offrir quelques clés de lecture afin que vous puissiez savourer avec moi quelques petites spécificités qui font d'une œuvre un véritable chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je voulais avec vous voir cette cantate, pas une très grande cantate dans sa durée, mais très grande par sa qualité musicale. Il s'agit de sa cantate « Nimm von uns her, du traur Gott ». C'est une de ses œuvres majeures dans ses cantates. Il n'a pas composé beaucoup, mais ça fait partie de ces belles petites pépites que je voulais partager avec vous. Alors avant de vous parler de la musique à proprement parler, je vais vous parler du compositeur, Dietrich Buxtehude, donc, qui est né en 1637 et qui est mort en 1707. C'est l'un des plus grands musiciens de son temps. Son influence est telle que les compositeurs, les musiciens du monde entier viennent voir le grand maître. Alors il a principalement été dans une ville très connue pour la musique qui s'appelle Lübeck. Et en fait, toute la tradition musicale de Lübeck qui a perduré jusqu'au 19e siècle, eh bien venait de cette façon de faire de Dietrich Buxtehude. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a lancé des concerts spirituels et profanes qui s'appelaient les Abendmusiken, qui étaient des veillées musicales dans le temps de l'Avent et donc qui ont persisté jusqu'au 19e siècle. Imaginez donc l'influence de ce compositeur-là. Alors c'était pas l'initiateur de ces Abendmusiken, mais c'est celui qui les a développés et qui en a fait une véritable institution. Il était tellement célèbre que de grands compositeurs, parmi lesquels bien entendu Jean-Sébastien Bach, l'anecdote est assez fameuse, il aurait parcouru à pied 400 km pour aller écouter l'enseignement du maître, il y serait resté 3 mois, c'est un séjour dont on ne sait rien, et alors il est vrai qu'aujourd'hui c'est soumis à quelques conjectures, mais l'histoire est belle, et évidemment il est certain qu'une rencontre a dû avoir lieu avec les deux génies, puisque après cette rencontre supposée, et selon moi avérée, il y a eu un changement dans le style de Jean-Sébastien Bach, évidemment traversé par la musicalité de son maître. Voilà donc pour les quelques mots que je pouvais vous dire sur Dietrich Buxtehude. En fait, on ne peut pas tellement parler puisque son œuvre et sa vie sont assez méconnues, ce qui est bien dommage, et donc il s'agit là peut-être d'approfondir avec ce grand compositeur. Après, bien entendu, des ouvrages de référence voudront vous en parler, mais un petit peu moins que Jean-Sébastien Bach, ça c'est une certitude, et c'est pourtant un très beau sujet à creuser, vous allez l'entendre vite avec sa musique. Je vais vous proposer de traduire le début et la fin de la cantate parce que comme ça vous allez voir un petit peu la tonalité dans laquelle on va se trouver. Alors c'est une traduction littérale que je vais vous faire, donc peut-être pas très belle, mais au moins vous allez vous rendre compte de ce que vous allez écouter. Écarte de nous, Seigneur Dieu fidèle, le sévère châtiment et le grand danger que nous avons tous, nous que nous sommes, mérités par nos péchés sans nombre. Garde-nous de la guerre et de la disette, de la peste, du feu et des grandes misères. Et la fin, guide-nous de ta main droite et bénis notre ville et notre pays, prodigue-nous toujours ta sainte parole, garde-nous des ruses et des atteintes meurtrières du diable, accorde-nous une brève félicité terrestre avant que nous te rejoignions pour l'éternité. Amen. Un très beau programme, je pense que vous en serez d'accord avec moi, mais là aussi une forme d'ambivalence qui va beaucoup servir dans cette musique-là. Pourquoi est-ce que je parle d'ambivalence ? Parce qu'il y a tout ce qui a trait au péché. En fait, vous voyez bien qu'il y a une différence entre la vie terrestre, avec ses dangers, ses écueils, et en même temps, le Seigneur, qui est vu immédiatement comme un protecteur, et de l'autre côté, la promesse de la félicité du ciel. Et donc voilà, il y a cette espèce de vie terrestre, avec ses affres, ses tourments, mais en même temps, le Seigneur qui guide, et la promesse du paradis. Et c'est là, évidemment, bien entendu, quelque chose sur lequel le compositeur va jouer, vous doutez bien, qui va se faire plaisir. Alors, ça commence un petit peu de manière presque vivaldienne, si j'ose dire, avec les violons. Alors, comme toujours chez Buxtehude, vous allez l'entendre, c'est une musique extrêmement raffinée. Pour moi, c'est même Bach, mais vraiment avec un supplément d'aristocratie, presque. Alors, je dis pas qu'il lui est supérieur, ça, ce sont les goûts de chacun, mais il y a chez Buxtehude une sorte de facilité d'aristocratie, et en même temps d'une très grande simplicité, vous allez l'entendre. Donc on a une forme de musicalité qui va s'étendre sur cette cantate, qui est assez courte, hein, et qui dure 12-13 minutes. Et là, vous allez entendre une forme de mise en musique qui est, bien entendu, extraordinairement bien pensé. Vous allez entendre tout d'abord des dissonances, parce que quand on parle du péché, eh bien, vous avez un accord parfait qui commence en mineur, voilà, en mi mineur, et vous allez immédiatement avoir des dissonances. Vous entendez ? Ça frotte et ça se résout. Et ensuite, bien entendu, ça se calme. Donc vous avez cette sonorité qui tout de suite donne le ton avec les péchés. Et bien entendu, la dissonance va être l'objet de beaucoup de choses. Et effectivement, quand on évoque le feu, les péchés, je vous ai donné la traduction tout à l'heure, écoutez la basse qui est très torturée par des formes de chromatisme. Je vous juge juste la basse. Vous l'entendez comme elle se torture, elle se tortille un petit peu. Et quand on voit ce que font les chœurs au-dessus, donc si je dois vous jouer ça, on entend. Vous entendez comment les harmonies se tortillent les unes entre les autres et comment finalement le péché, le feu, eh bien à chaque fois sont magnifiés par la musique parce que eh bien les accords se tortillent entre eux-mêmes. Il y a une forme de malaise et là on sent effectivement que les péchés, les affres sont ici et sont ici bien rendus par la musique. Ensuite vous avez de longs développements avec des changements rythmiques comme ici bien entendu au cantate afin que la forme soit le plus complexe possible et vous avez caché, mais à la fin de cette cantate un extrait très connu d'un choral. Alors je vous avais parlé de la forme chorale il y a quelque temps, il s'agit tout simplement d'un air qui doit être facile à reprendre pour les gens et bien entendu dans la liturgie luthérienne, eh bien Luther a écrit beaucoup de ses chorales et donc là il s'agit d'un choral luthérien, le Vater Unser, il s'agit tout simplement du Notre Père qui est tout simplement caché à la fin de cette œuvre. Et avant de vous la faire écouter, d'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit extrait de ce Vater Unser de sorte à ce que vous l'ayez dans l'oreille et que vous puissiez le reconnaître. Et on termine bien entendu par un Amen extrêmement virtuose. Pourquoi ? Parce que la dernière phrase, avant que nous te rejoignions pour l'éternité, il y a cette confiance et bien entendu cette envie de virtuosité et de se dire, ben, véritablement, on est au ciel. Alors, avant de vous faire entendre cette cantate, comme je vous le disais, eh bien, on va se mettre dans l'oreille le choral du Vater Unser, de sorte à ce que vous puissiez le reconnaître. Voici donc la version avec l'harmonisation de Jean-Sébastien Bach, puisqu'on va écouter l'élève avant le maître, et ensuite on écoutera bien entendu Buxtehude. Voilà pour cette très belle page de Jean-Sébastien Bach, BWV 737, son Vater Unser in Himmelreich, Notre Père qui est au royaume des cieux, Notre Père qui est aux cieux donc, un choral magnifiquement harmonisé ici par l'élève de celui que nous allons entendre tout à l'heure. Il s'agit d'un choral luthérien, je vous le disais, extrêmement fameux. Je vous rejoue l'air pour que vous l'ayez en tête et dans la tonalité dans laquelle vous l'entendrez, parce que là nous avons transposé, on est dans une autre tonalité, donc je vous remets le thème en tête. Voyez donc quelque chose d'assez simple qui rentre vite dans l'oreille, c'est bien entendu l'objectif de tout choral qui se respecte. Et le thème a été si fameux, bon, il a été repris par d'autres grands compositeurs de cette période baroque naturellement, mais également jusqu'au 19e siècle. Notamment Félix Mendelssohn Bartholdy, un des plus grands compositeurs de cette période-là. C'est notamment à lui que l'on doit la redécouverte de tout le répertoire de Jean-Sébastien Bach. Il a fait toute la résurrection de cette musique, notamment avec un grand concert qui est resté fameux autour de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Et alors, il s'est servi de ce thème pour faire le thème de sa 6e sonate pour orgue, une œuvre là aussi monumentale que je vous invite à découvrir. Tout ça pour vous dire que, eh bien, il y a une sorte de filiation dans toute cette musique-là qui est encore aujourd'hui extrêmement vivante. Et c'est ça qui est magique d'avoir comme clé de lecture afin que vous vous rendiez compte que pour le commun des mortels, c'est ça qui était extraordinaire avec ce genre de musique, c'est qu'on mêlait musique savante et musique populaire. C'est-à-dire que vous aviez une cantate absolument extraordinaire, comme vous allez l'entendre dans quelques instants, mais les gens pouvaient se dire « Ah, mais ce thème, je le connais !» et le siffloter. Un petit peu comme bien après, par exemple, avec la symphonie Titan de Gustave Mahler au 19e siècle, eh bien, vous reconnaissez Frère Jacques, en mineur certes, mais vous reconnaissez ça. Et en fait, il y a ces petits clins d'œil à la dimension populaire qui font que parfois la grande musique est aussi de la musique populaire, mais de la musique savante, et qui respecte chacun avec son patrimoine. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, et c'est pour ça que je vous donne ces petites clés de lecture. Voilà donc pour le clin d'œil que vous retrouvez. Donc vous aurez cette évocation du Vater Unser juste à la fin. D'ailleurs, c'est noté Allegro, comme s'il y avait cette espèce de promesse du ciel. Et là, c'est marrant parce que vous avez une transposition entre la promesse du ciel que vous avez dans le texte véritable de la cantate que je vous ai traduit au début, et en même temps avec la traduction du Notre Père qui est aux cieux, et en fait on sait que c'est l'objectif. Donc il y a une sorte de double lecture qui est donnée à cette fin de cantate que je trouve assez magique. Et on enchaîne avec le Amen, vous allez entendre, très virtuose, comme si on s'emballait. Il y a un petit côté vraiment comme si on allait vers le ciel avec toute cette joie et le transport de joie des anges qui se dit véritablement que c'est là que vont les plus belles choses. Voilà, assez parlé pour maintenant. Vous allez entendre maintenant cette extraordinaire cantate de Dietrich Buxtehude, place à la musique. Et puis ensuite, on en reparle brièvement après.
Thank you.
le raffinement, la joie de Dietrich Buxtehude dans cette magnifique cantate. Une œuvre absolument sublime. Une petite pépite, hein, parce que comme je vous le disais, il s'agit d'une petite cantate. Alors les cantates peuvent être de formes variées, vous savez, il s'agissait de cette mise en scène de textes liturgiques ou parfois de textes bibliques qui ici sont magnifiquement mis en musique par ces grands maîtres de la musique et de la période baroque qui ont tous contribué chacun à leur façon à mettre en scène toutes ces choses-là. Vous doutez bien qu'à l'époque, la musique, notamment chez les luthériens, ont une grande part de catéchèse pour pouvoir dire à tout le monde eh bien la parole de Dieu, et c'est bien fait, bien amené, je vous l'ai dit, avec tous ces thèmes connus que les gens pouvaient siffloter dans leur tête et qui montrent que là aussi il y avait cette dimension ultra populaire et de faire de ces grandes œuvres des œuvres accessibles pour tout un chacun. Et alors je vous le disais un petit peu en préambule, alors moi c'est mon avis tout à fait personnel. Alors vous savez que j'aime infiniment Jean-Sébastien Bach, pour moi d'ailleurs c'est même le plus grand compositeur de toute l'histoire de la musique, mais il y a chez Buxtehude ce raffinement, cette élégance, cette aristocratie du geste dans l'infime, parce que vous vous rendez bien compte que c'est pas la musique extrêmement complexe par rapport à ce qu'a pu écrire Jean-Sébastien Bach, mais alors dans cet raffinement, dans cette simplicité, eh bien sort cette cantate absolument magnifique. Et ce que je vous invite à faire naturellement, c'est de comparer l'œuvre de Dietrich Buxtehude avec celle de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit de sa cantate BWV 101 sur le même thème. Faites-vous une idée donc, comparez ces deux artistes extraordinaire. Voilà pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.